Myri, bonjour.
Bonjour Elsa, bonjour à tous.
Et on commence bien sûr avec cette libération hier d'Idan Alexander. Il a passé sa première nuit en Israël.
Et oui, enfin libre, après 584 jours dans l'enfer de Gaza. Alors il faut savoir Elsa qu'Israël a retenu son souffle toute la journée hier, puisqu'il devait au départ être libéré à midi, mais le Hamas, c'est le Hamas, a repoussé l'échéance de plusieurs heures. Idan Alexander a donc été libéré hier soir par l'organisation terroriste, sans cérémonie. Et en civil, comme l'exigeait Washington, il est rentré en Israël par le point de passage de Kisoufim. Alors Kisoufim, c'est là qu'il avait été enlevé le 7 octobre 2023 de sa base, comme si on voulait finalement boucler la boucle. De là, il est arrivé à la base de Réim, dans le sud d'Israël, où il a pu enfin retrouver sa famille, ses parents, son frère et sa sœur qui sont arrivés hier des États-Unis. Des retrouvailles émouvantes hein, que tout le pays attendait depuis 584 jours. Les moments les plus touchants restent les cris de joie, évidemment, de sa maman qui se jette dans ses bras, mais aussi la surprise du jeune homme face à son petit frère qui a bien grandi, évidemment, en plus d'un an et demi. Et puis son sourire aussi en découvrant les pâtisseries préparées spécialement par sa grand-mère Varda, qu'il a pu retrouver à l'hôpital de Tel Aviv un peu plus tard. Alors, Idan Alexander a aussi rencontré les émissaires américains Steve Witkoff et Adam Böhler, qui ont fait le déplacement depuis Washington, qui ont suivi sa libération minute par minute. C'est un rappel aussi que c'est bien le président américain Donald Trump qui est derrière cette libération. Il est aussi possible que Idan s'envole demain pour le Qatar pour serrer la main du président américain, si les médecins évidemment lui donnent le feu vert. C'est une demande américaine, presque une exigence que Idan s'envole pour le Qatar. Alors, Idan Alexander a passé, vous l'avez dit, sa première nuit à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Il semble aller bien physiquement. Autant que faire se peut, évidemment, vu les circonstances, mais les examens médicaux aujourd'hui permettront d'en savoir un peu plus. Je peux déjà vous dire que sur les images diffusées hier soir des retrouvailles avec sa famille, on voit qu'Idan est très pâle, qu'il est affaibli, qu'il a des marques sur les bras, des bleus, des blessures aussi. Certaines semblent un peu plus anciennes que d'autres. En tout cas, les examens médicaux nous en diront plus aujourd'hui.
Et il a déjà, Idan Alexander, commencé à raconter tout ce qu'il a subi depuis son enlèvement le 7 octobre 2023.
Et oui, la première chose qu'il a racontée, c'est ce qui lui est arrivé, ce fameux 7 octobre au moment des massacres. Alors, il faut comprendre, Elsa, que les proches ne posent pas de questions directes sur le conseil des psychologues, et que Idan a donc spontanément choisi de s'ouvrir à sa famille. Il a confié qu'il s'est retrouvé le jour des massacres dans la base de Kisoufim, seul face à 30 terroristes. Il a été blessé par des éclats d'obus. Il a vu ses frères d'armes tués par les terroristes avant d'être enlevé à Gaza. Une fois dans la bande de Gaza, il a été torturé pendant des interrogatoires interminables et extrêmement violents. Il a été régulièrement battu et humilié. Il était surnommé d'ailleurs l'Américain. Il a été enfermé pendant de longs mois dans une cage, menotté, ligoté. Il a été détenu dans les tunnels du Hamas, sans lumière du jour, avec très peu d'air et très peu de nourriture et d'eau. C'est ce qu'il confie donc à sa famille. Il explique aussi que depuis 3-4 mois, il a été un peu mieux traité. Il a reçu un peu plus de nourriture et d'eau. Il a pu se laver de temps en temps. Alors, c'est très simple à expliquer cette amélioration dans ses conditions de détention, puisque l'administration Trump était déjà en train de négocier sa libération. Le Hamas a donc voulu le rendre présentable. Idan est le dernier otage américano-israélien qui vivait encore aux mains du Hamas. Il reste 4 personnes qui ont la double nationalité dans la bande de Gaza. 4 personnes qui ont été tuées soit le 7 octobre, soit en captivité, dont les corps sont détenus par les terroristes comme monnaie d'échange.
Et après cette libération, Israël a repris ses opérations à Gaza.
Et oui, peu après 4 heures du matin, l'armée israélienne a frappé avec un drone des terroristes de haut rang du Hamas qui se trouvaient à l'hôpital Nasser. C'est dans la région de Khan Younes. Les chefs terroristes opéraient depuis ce complexe civil pour planifier et exécuter des attaques contre les soldats israéliens, mais aussi contre les civils israéliens. Plusieurs terroristes ont ainsi été tués dans cette frappe. Selon des informations palestiniennes, parmi les morts se trouve le journaliste Gazaoui, et je mets des guillemets à journaliste, Hassan Atsila. Vous vous souvenez peut-être de ce Palestinien avec son micro et sa caméra qui a filmé les massacres du 7 octobre en direct. Il avait notamment diffusé un char en flammes près de la barrière de sécurité. Alors Hassan Atsila a été vu avant le 7 octobre régulièrement aux côtés de Yehiel Sinwar. Une photo d'ailleurs montre le leader terroriste embrasser avec emphase le pseudo-journaliste. Alors, était également présent à l'hôpital Nasser au moment de la frappe le successeur d'Ismaël Barhoum, c'est-à-dire le chef du gouvernement du Hamas à Gaza et responsable des finances du mouvement terroriste. Et on apprend par ailleurs ce matin que Tsahal continue ses préparatifs en vue de l'élargissement de ses opérations à Gaza, mission appelée char de Gideon.
Et enfin, Miri, Donald Trump arrive aujourd'hui à Riyad, d'une tournée dans le Golfe qui inquiète le gouvernement israélien.
Oui, alors on sait qu'Idan Alexander a été libéré grâce aux pressions américaines exercées sur le Qatar, qui à son tour a lourdement pressé le Hamas. Cette libération est présentée comme un cadeau au président Trump, mais rien n'est gratuit, hein. On le sait, Elsa, et à Jérusalem, on s'inquiète du prix de cette libération que Donald Trump risque de faire payer à Israël. On voit déjà un agacement du président américain concernant la poursuite de la guerre. Est-ce qu'il va continuer à négocier sans tenir compte des positions israéliennes? Il doit rencontrer évidemment à Riyad les responsables saoudiens, également au Qatar les responsables qataris. Il a fait d'ailleurs la libération, il l'a fait avec la libération de Idan, Donald Trump, de négocier seul son Israël. Il l'a fait aussi avec la trêve signée avec les Houthis au Yémen, alors que les Houthis continuent de frapper Israël. Et Donald Trump le fait en ce moment avec Téhéran dans les négociations sur le programme nucléaire iranien. Alors oui, l'inquiétude est grande à Jérusalem. Les critiques aussi à l'égard de Benjamin Netanyahou, y compris dans son propre camp, lui reprochent d'avoir perdu la confiance du président américain ou d'avoir voulu plaire à Donald Trump et d'avoir été trompé. Certains exigent d'ailleurs aujourd'hui qu'Israël agisse désormais seul, ce qu'Israël ne peut pas faire. Benjamin Netanyahou regarde avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe évidemment dans les pays du Golfe avec ce déplacement de Donald Trump.